soirée des Brises Saumantes 2016. Donc en première partie de soirée, vous allez assister à une libre conversation. Oui, je dois préciser qu'après, nous vous demanderons de ressortir. Et si vous voulez venir assister à la soirée des Brises Saumantes qui a lieu à 21h, voilà, il faudra ressortir avant pour pouvoir payer votre place. Donc là, vous allez assister à une libre conversation entre le professeur de lettres Yves Le Pestipon et le poète-performeur Sébastien Lespinasse. Le grand professeur de lettres Yves Le Pestipon, professeur de grandes lettres et de petites lettres, et le grand performeur Sébastien Lespinasse sur le thème du Printemps des Poètes 2016, thème qui est le grand 20e. Bonne soirée.
Le grand 20e siècle.
Le grand 20e siècle.
Tu mets un T après et un G, c'est ça?
Il y a un G.
T peut-être à D.
Il y a un G.
Attends, il y a un G.
Tu fais la diérèse.
Il y a le point du G entre les deux X.
Il y a le point du 20e siècle. Ça écoule là, ça écoule au haut.
Ouais.
Je vous suis.
Servant.
Ouais. Pour être nous chrétiens de cette importance.
Non, mais c'est pas du grand 20e siècle, ça.
Si, c'est le grand 20e
siècle. Grand 20e siècle.
Si. Je l'ai né aussi. Non. Si, ça vient de sortir. Le 19e siècle français.
Non, mais regarde, ça parle de Jésus-Christ. 20e siècle, c'est après Jésus-Christ, non?
Non, mais oui, c'est vrai.
Non, donc regarde les siècles. Grand 20e.
Mmh.
Bon.
Printemps des poètes, 2016.
Ouais.
Ouais.
C'est le printemps, il fait beau, faut dire.
Subvention. Grand 20e siècle.
C'est beau au 20e siècle. C'est le 20e.
C'est
le 20e arrondissement, le 20e siècle.
Je me souviens plus.
Tu es de quel... C'est quoi? Tu es de quel siècle, toi, Yves? Tu es lequel, en fait? Tu es où, toi? Je crois que j'avais lu quelque part. T'es né quand, déjà? Je me souviens.
Tout autour, là, je vois. Je fais le tour. Je sais plus. Le hangar. Il y a des gens, là.
Ouais.
Il y a des gens. Ouais, le 20e siècle, tout autour, là. Et toi, tu poses la question, mais toi, t'es de quel siècle?
Bon, écoute... Ah, moi, c'est le siècle, siècle de 19h06, ça existe ça, c'est ça? C'est le siècle de 19h06.
Ouais, bon, moi je me sens fichu.
Sans fichu?
Ah, je suis complètement fichu, parce que... Complètement fichu, parce que je suis né en 57, c'est le truc le plus minable pour être un auteur du 20e siècle, ou du 21e siècle, tu vois, c'est l'histoire à la Fontenelle, le type qui naît au milieu d'un siècle, qui naît en l'été de l'autre, je continue longtemps, mais... Dans la gare des Michards, 20e siècle, je suis trop jeune. Dans la gare des Michards, 21e siècle, trop vieux. Je suis fichu.
Oui, en fait, t'es un peu au milieu de l'échelle, quoi.
Ouais, t'es un peu moins fichu.
Un peu moins, mais tu sais, 75, bon, disons, je suis un jeune poète du 21e.
Hein. Un vieux du 21e.
Ouais, c'est ça, je vais être un vieux du 21e. Ouais.
Mal.
Mais toi, tu vas être un très très vieux du 21e.
Très vieux,
t'es déjà mort un peu, non?
Moi, je suis déjà mort. Et en plus, comme des fois je fais du jogging, j'espère vivre au 22e siècle.
Ouais.
avec un peu de santé, via là.
Ouais. Et attends, tu m'as dit que t'es du 20e alors, mais t'es de quelle grandeur? T'es grand là?
Non, je sais pas.
T'es grand là, non? C'est quoi la grandeur de ta grandeur du 20e siècle hein?
Moi, en tout cas, je sais que t'es petit.
Ouais.
T'es en bas.
Ouais.
Et moi, je suis en haut.
Moi, je vois que tu es le phénix des hautes de ces bois.
Je vais lâcher un horloge-bec ou j'achète un fromage et je me sens plus de joie. Allez, je fais un peu parce que je suis grand.
J'ai l'impression que plus tu vas en haut de l'échelle et plus tu dis des conneries.
Oui, et plus je lâche le fromage ou le langage.
Oui. Ouais. Oui.
Mais toi, tu grossis aussi quand je descends.
Oui.
Ouais, ah, oui. Ouais, c'est vrai.
Oui.
Je suis peut-être gros, moi aussi.
T'es gros?
Grand.
Gros ou grand?
Grand. Grand ou gros?
Grand.
Qu'est-ce que ça veut dire grand? Je sais pas. Grand, 20e siècle. Grand. Grand.
C'est grand comment le 20e siècle?
C'est grand.
C'est grand ou c'est grand comment?
C'est grand comment, oui. Parce que pour une fourmi, un alligator c'est vraiment grand, mais pour la planète Mars, un alligator c'est petit. Pour le général de Gaulle, Giscard est aussi grand que lui, Sarkozy est petit. Mais pour François Hollande...
Tu vas pas dire quand même que Sarkozy est grand.
Hé hey. Pourquoi François Hollande a une grosse moto?
Vraiment, ça, plus il monte en haut de l'échelle et plus il va voir n'importe quoi.
Je descends.
Viens voir un peu ce qui se passe ici-bas.
Je me sens rapproché du centre de la Terre. C'est une petite chose.
On n'a pas beaucoup avancé.
Non. On ne sait pas, en fait on est du 21e siècle, c'est-à-dire on comprend rien.
Et heureusement il y a Google.
Et il y a quelque chose effectivement
qui est comme
une chose très ancienne, qui est Google, qui est comme un endroit où on va demander ce que les choses sont.
Sur la toile horizontale.
Absolument.
Il n'y a pas de grand petit truc, c'est plat.
Ils avaient Google autrefois dans l'Antiquité, on allait voir un type un peu louche qui avait l'air un peu aveugle et on lui posait des questions et en général il répondait par une énigme.
Ouais.
Quelque chose qu'on comprenait encore moins bien que la question de départ, on lui demandait...
Google lisait une pitié par là.
Exactement, une pitié.
Là on gagne du temps.
Et alors en fait, comme Yves et moi on est un peu nuls, on a cherché sur la Piti, on a demandé à la Piti, c'est-à-dire à Google, qu'est-ce que c'était le grand 20e. Donc je suis allé sur Google, j'ai tapé grand XX, grand 20e, et le résultat c'est, je suis tombé, alors j'oublie le résultat, grand XX est un site porno sexy pour filles et femmes majeures, il traite de sexualité, désir, fantasmes et nouveaux plaisirs, photos et vidéos sélectionnées.
Moi, je suis allé sur la page Facebook de Grand XX. Même chose, et en plus, on peut acheter des sextoys pour femmes. À côté, un peu plus bas, il y a site Printemps des Poètes. C'est un peu. Grand XX.
Grand XX. La pitié du Grand XX.
Moi, ça m'a fait penser, mais c'est embêtant, quoi, parce qu'on est quand même obligé de parler du Grand 20e siècle, puisqu'on est sélectionné pour ça. X. Sonner un X. Ces durs ongles très hauts dédiant leur onyx, langage, l'angoisse. Ce minuit s'éteint, lampada fort. Enfin, le soleil, un X, quoi, de Valarmé, qui est lui aussi encore un petit peu battu. Il est au 19e siècle, nous on a le grand 20e siècle. Et effectivement, les pitis, dedans il y a les ptix, nul ptix. Ça, on dit un truc, dès qu'on dit nul ptix, on sent qu'on impressionne, on s'impressionne soi-même. Alors ptix, ptyx, il y a le x, il y a le y de mon prénom. Ptix, c'est un mot qui est très bien parce que il n'existe en aucune langue.
C'est un apax.
Ptix, c'est un apax. Ptix, tax. Ptix. Si, pas tout à fait, parce qu'en grec, il y a un génitif, tout corse,
n'y a pas de nominatif, on ne l'a pas trouvé. On l'a trouvé dans le texte grec, le génitif. Toukos, ça veut dire quelque chose comme une coquille avec laquelle on fait du bruit, ce qu'on fait ici au théâtre du hangar, parfois. Et puis ici, il y a le grand, on remonte encore au XIXe siècle, le grand H, le grand Hugo, dans un livre où il parle de la Grèce. Il se met à un moment, Hugo, à vouloir parler de la colline du Pnyx à Athènes, et il fait une coquille, et il écrit Ptix, en tout cas l'imprimeur est mal armé et content. Enfin, tout ça, ça ne mène pas bien loin.
C'est une coquille vide. Ça veut dire quand même que ce site porno résonne dans une coquille vide qui nous met sur la voie peut-être de ce que pourrait être le grand 20e siècle dans le printemps des poètes.
Mais c'est mal armé qui nous met sur la voie, c'est-à-dire pas un titre très bien armé, donc pas très grand. Parce que pour moi, le grand 20e siècle, c'est quand même, franchement, c'est le général de Gaulle. Quoi. Tu vois, voilà, c'est un grand type, le grand Charles, enfin, bon, il est grand, et que Giscard qui est presque aussi grand après, puis après ça diminue en taille, bon, il est en vitrine plus petit. Sarkozy, vraiment, hein, Hollande, un petit, et bien, on réduit tout, alors que l'humanité s'agrandit, la France réduit par ses présidents même, et du coup on met le grand 20e siècle en France, parce qu'on aime le grand, le GPG, le grand projet de ville, le grand plan, le grand plan pour l'éducation, le grand Toulouse, enfin voilà, il n'y a pas de petit Toulouse, le grand hangar, le grand Lespinasse, le grand 20e
siècle. Hangar, c'est grand d'ailleurs, c'est l'anagramme du grand.
C'est grand. Alors, ça me rappelle qu'au début du XXe siècle, il y a un auteur qui s'appelle Proust, qui met un personnage vraiment ridicule. Il s'appelle Le Grandin, débarque, qui est vraiment un crétin, un snob et compagnie. Hein, voilà. Et Proust commence tout de suite à se dire.
Tu t'es identifié.
Moi, je me suis identifié à Le Grandin, je pense bien. Mais je pense aussi à Saint-Simon, qui, au XVIIIe siècle, dit. Des fichus, il n'y a que les bâtards qui règnent, il n'y a que de la boue, vous savez, les bâtards, c'est le roi Louis XIV légitime ces bâtards dans le comte de Toulouse. Et ça, c'est la boue, c'est le début de la décadence, c'est la fin de tout. Et ça continue d'être la fin de tout. Je me demande si le XXe siècle, on ne commence pas à être dans la boue. Dans la boue. Il y a un poète qui n'est pas très grand, de cette manière, qui aime faire des trucs avec des pièces.
Oui, Francis Ponge.
Ouais, Francis Ponge, tu vois, avec des trucs. D'éponges, d'oranges, de cachots, de cages, il y a pire encore, il y a Tarkos avec caisse, hein, qu'est-ce que c'est, caisse. Non, il y a un éloge inachevé à la boue. Quand tu es un grand poète, tu fais un éloge, je ne sais pas, à l'échelle par exemple, il y a Jean-Michel Maudepoix qui dit que le lyrisme c'est une ascension de la parole plus ou moins furieuse d'ailleurs pour René Char. Et l'autre type,
la poésie solaire.
On monte, tu montes là-haut, tu es là-haut, tu montes là-haut, tu sens tout de suite un peu plus poète en bas.
Ah oui, ça c'est sûr.
C'est sûr. À partir de la troisième, quatrième marche, tu commences à sentir la poésie monter. D'ailleurs, Victor Hugo aimait bien monter sur les rochers, et puis là, il se mettait là-haut. Et l'autre type ponge, il se dit, je vais faire un poème à boue. Une poule ORM de Wartiris, nous retiendrons en poussière, nous revenons dans la boue. Et il fait une ode à la boue et il dit, voilà ce qui est bien dans la boue, c'est qu'elle est dégueulasse, qu'elle est liquide, qu'elle prend toutes les formes, qu'elle colle partout. Voilà. Ouais. On est dans un problème, peut-être que le XXe siècle, c'est un effet, Saint-Simon a raison, la tourbe, la flange, la fange. Et que peut-être le général de Gaulle, c'est ce dont on rêve, on croit. Et au début du XXIe siècle, on se dit, bon voilà, le grand XXIe siècle, les tours jumelles et tout, et en fait, vraiment, on n'avance pas beaucoup, quoi. On est dans l'horizontale de notre conférence, quand même, hein. Voilà. Il y a des gens qui sont venus au hangar ce soir. Tout à l'heure, il y a le grand Johnny Hallyday, à 20h, qui passe à Toulouse. Pas mal.
Ouais, ça se discute.
Ouais. C'est pas mal. Bon, le problème du grand 20e siècle, soyons sérieux.
Allez, on y va au travail. Excusez-nous.
Ouais, c'est pas besoin d'être sérieux. Bon. Alors donc, il y a donc un printemps des poètes qui met comme thème le grand 20e siècle. Là, nous allons être très, très critiques. Hein, très critiques. Parce que quand on dit le grand 20e siècle, on dit 5 choses ou 6 choses en même temps, mais enfin, allons très vite, on dit d'abord le.
Oui, le.
Le. On dit le. Singulier, on dit le grand 20e siècle. Il y a des types du 7e siècle.
Pas question qu'il y ait du multiple. Le grand 20e siècle.
Voilà, le grand siècle d'Auguste, le grand siècle de Pierre Grandtrop, il y a un tas de types qui arrivent. On dit grand, et ça c'est embêtant, parce que si je commence à dire grand, d'abord je sais ce que ça veut dire grand, et toujours pareil, c'est assez problématique, et surtout pour dire que par exemple, je suis grand, faut que je me mette à l'extérieur de moi. Que par exemple, je me mette dans le regard de Sébastien Esquinas, mon voisin, et j'imagine, je lui prête la pensée, à lui qui est extérieur à moi, que je suis grand. Mais à l'intérieur de moi, je ne vois pas que je suis grand, je vois même pas les tripes, je m'éprouve moi-même comme dans un aquarium plein de crevettes, le petit chien, voilà, les puces, etc. Mais je n'éprouve pas. Donc, pour éprouver la grandeur, il faut sortir de la chose même. Or, c'est assez curieux, la poésie est l'installation à l'intérieur de la chose même. Par exemple, à l'intérieur de la bouche, de la langue, enfin tout ça. Et ensuite, il y a siècle. Alors, siècle, ça vient couper en tranches. Alors je sais dans l'Aveyron les saucissons, les coupes en tranches, mais l'histoire, est-ce qu'on va la couper en tranches? Est-ce que c'est un acte poétique de mettre la discontinuité du temps, de l'histoire, de la coupure? Alors que, il y a un type qui s'appelle Méchoni qui met l'accent sur la continuité, sur le rythme, sur la voix. Et donc, siècle, ça ne nous convient pas. Et en plus, c'est une unité. Et en plus, ça fait, c'est pénible pour nous, parce que bon, pour moi surtout, moi je suis d'un siècle et déjà de l'autre. Et comme j'aspire tout de même à être dans le regard des Michards, peut-être pas comme auteur, mais au moins comme auteur, hein, directement du regard des Michards, je dirais bien...
Dans l'immortel, la guerre des Michards.
L'Espinasse et le Pestipon, hein, par exemple, un truc comme ça, qui serait le livre que nous ferions et que les collégiens de l'avenir... Tiens, quand l'Espinasse et le Pestipon, voilà, on parle sur les articles, sur Serge Peille, sur d'autres, etc. Voilà. Et puis on mourrait, et puis les types ont encore ça dans leur bibliothèque. Mais on est mal parti, hein, on est mal parti. Et alors on sent bien que le grand XXe siècle, il y a comme une nostalgie du grand, de l'unique, du siècle, de la.
Le grand siècle,
le. Grand siècle, Louis XIV. Oui, finalement, pour moi, je crois que le printemps des poètes a surtout une grande nostalgie de Giscard. Alors, je veux dire assez clairement, Giscard est le dernier président de la République grand. Et c'est l'auteur de cette phrase immortelle que certains connaissent ici, que nous commentons parfois avec Sébastien, beaucoup de livres du monde, qui demain sera présenté dans un festival à Paris, dans quelques jours, en Nouvelle-Calédonie. Rien n'égale, je crois, la majesté d'un cerf
qui débouche
de la forêt. Phrase qui est au cœur du passage. Et on voit bien l'horizontalité de la forêt. On voit le cerf avec ses droits. Et puis surtout, il y a cette chose magnifique qui est la majesté.
Oui. Hein,
qui, c'est pensé à Louis XIV.
C'est la majesté et le je crois.
Le je crois
qui est mis en incise, entre virgules, je parle sur la responsabilité grammaticale de
la spécialiste de la ponctuation.
Mais on a ce je crois qui vient bouleverser un peu cette grande phrase, comme ça, cette grande période.
Je crois que c'est avec le je crois que cette phrase qui serait très classique, qui parlerait avec une certitude, on va dire, cartésienne, Louis XIVienne, de la grandeur, rien n'égale, la majesté d'un cerf, voilà, quelque chose de sérieux.
Oui. Louis XIV d'ailleurs arrive tout de suite après.
Il arrive juste après. Mais le je crois, il y a un doute, mais qui n'est pas un je doute, je suis. Non, c'est un doute, je doute, c'est un truc du XXe siècle, un peu pourri, hein, la virgule qui est là, rien n'égale. Ce 18, c'est pas si sûr que ça.
On veut marquer dans la pierre rien n'égale la majesté d'un cerf qui débouche de la forêt. Finalement, il y a le je crois qui vient perturber tout ça. Ce je crois, cette chose du subjectif. Voilà. De...
C'est le oui mais de Giscard qui se rappelle qu'il n'est pas de Gaulle.
Oui.
C'est un truc comme ça.
C'est aussi une référence directe à ce site qui traite de sexualité, désir, fantasme et nouveau plaisir. Cette envie comme ça de basculer dans une zone indistincte. Peut-être le XXe siècle se définirait du fait de ne pas être grand, mais d'être plutôt cette zone indistincte, où les choses n'ont pas trop de territoire, pas trop de limites, où d'une certaine manière elles échappent même au grand XXe siècle. C'est difficile de savoir ce que c'est qu'un siècle. Qu'est-ce que c'est qu'un siècle? Moi, si je réfléchis à ce que c'est qu'un siècle, en fait, ce que j'ai, c'est des images que j'ai apprises à l'école. J'ai des images, et ces images sont d'une grande violence, effectivement, pour ceux qui sont à cheval entre deux siècles. Il y en a autant qui sont à cheval qu'au milieu, donc c'est terrible.
On pourrait déformer ça, dire que le siècle commence, par exemple, en 1750 ou en 1950.
Ça t'arrange, ça, oui.
Moi aussi, le siècle commence en 1950, ça m'arrangerait parce que je serais un type du début du siècle. Je pourrais couvrir le siècle, je serai en ce moment au sommet de mon œuvre.
Puis surtout, ce qui suppose l'idée de siècle, c'est une chose assez forte, c'est l'idée au fond que les morts sont morts. Que les morts ne parlent plus, qu'ils ont fermé leur bouche à jamais. et qu'au fond, il y aurait des choses qui passent, des choses qui sont dépassées, et comme on entend parfois, telle chose est dépassée, c'est fini, etc., comme si au fond, il y aurait une actualité sans cesse qui ferait tout avancer, et il n'y aurait qu'un temps, qu'un seul temps, qu'une seule ligne du siècle, le grand XXe siècle, alors qu'on a l'impression qu'il y a plein, une multiplicité de petits XXe siècles qui partent un peu dans tous les sens, un peu buissonnier, bruissonnante, un peu
bruissonne,
quelque chose comme ça.
Moi je crois, tu vois,
comme si tous les siècles étaient là. Et moi j'ai l'impression que tous les siècles sont là.
Ah, moi je suis d'accord avec toi, je crois que parler de XXe siècle ou de XVIe siècle, c'est céder au grand fascisme de la mort sur la ligne horizontale du temps.
Oui,
parce que c'est bien dit, camarade. En effet, bon, par exemple, je prends un de ces types là-bas, n'importe lequel. Bon, j'ai l'Énéide. Bon, dans la bibliothèque du théâtre du Hangar, il y a plein d'éditions de l'Énéide. C'est pas mal, hein, voilà, des éditions de l'Énéide ou du théâtre comique du Moyen-Âge. Je prends même Homère, qui n'est pas là, mais peu importe. Homère, c'est un grand auteur du XXe siècle. On n'a jamais autant lu Homère. Aujourd'hui, les Grecs le lisaient moins que nous, le commentaient, le publiaient, on fait des films, on en parle. C'est pareil avec François Villon, on se bat sur Hector de La Fontaine. Là, au XVIIe siècle, il n'y avait pas un spécialiste de La Fontaine. Et là, on est sur la Terre une centaine au moins et on se hait. Et on écrit des livres les uns contre les autres, et on parle, et on publie, etc. Et La Fontaine est important, et Virgile aussi, et etc., etc. Ce qui fait que le grand XXe siècle, c'est vraiment le siècle de La Fontaine, c'est le siècle de Bossuet, naturellement, mais c'est aussi le siècle de Strumbibioglug, le poète qui écrira des poèmes admirables.
En 2350.
Ou 352. Ouais, je pense. Et alors ça, c'est un grand problème. Actuellement, c'est un grand... C'est plier les choses, hein, c'est plier. C'est... Là, bon, il y a des types qui disent, on est au 20e, ou des types qui disent, on est au 21e siècle. Ils le disent avec l'énergie. Hein. Ils sont là, hein, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Hein, ils sont sûrs d'eux-mêmes. Les types du calendrier, de l'Église, les papes, enfin tout ça, tous ces gens-là. Quoi, hein, voilà, ils sont sûrs. Et ils disent, voilà, je suis 20e, je suis 16e. Ouais, ça nous coupe en morceaux, et la réalité, c'est pas ça. Quand on va à Place Pinel avec Sébastien Espinasse, les endroits où on va le plus souvent, c'est un endroit horizontal. C'est pas sur la ligne du temps droite, c'est une place, c'est un espace géographique. Parfois on tourne autour de la Place Pinel.
Oui.
Sébastien tourne autour, je tourne autour, c'est un espace plat. On tourne autour de la Place Pinel. Parfois on va dans la Place Pinel qui est un espace plat. Et dans cet espace plat, évidemment cette Place Pinel a été créée... Bon, 1929, 33, au XXe siècle. Oui, mais là, il y a des morts par-dessous, il y a les morts de la bataille du 10 avril, il y a des fragments de terre, des crottes de chiens qui viennent de loin, des fossiles, si on creuse un peu, il y a des os de mammouth, il y a des choses beaucoup plus anciennes, il y a des femmes qui sont passées là au Moyen-Âge, de la prostitution au XIXe siècle aussi, dans cet endroit-là. Et donc, quand on met les pieds là, on met les pieds dans... comme partout. Comme ici. Hein.
Probablement ici, oui.
Ouais, ouais,
on ne sait pas ce qu'il y a en dessous. Hein.
Il paraît que tu as des jeunes d'Australopithèque.
Oui.
Moi aussi. On est tous là et on a des jeunes d'Australopithèque. Et c'est vrai aussi que les livres qu'on lit, qu'on aime, les livres de poésie, Oui, les plus vieux sont parfois les plus jeunes. Parfois, ça m'arrive de me dire, tiens, l'autre soir, je faisais un commentaire sur l'évangile de Marc avec des types dans un temple à Toulouse. Et puis, on lisait le début, Jean qui arrive, et Egeneto, il surgit. Et puis, il y a deux jours, j'entends Anne Clairello qui dit ce verbe surgir, quelque chose. Et je pense à Egeneto, mais surtout au début de l'évangile de Marc. Il y a ceci, Jean le Baptiste qui surgit, je le lis en grec, Phoné bontos ante eremo, une voix gueulant comme un bœuf dans le désert. Et je me dis, c'est la veille des bruissonnantes, je pense à Sébastien Espinasse. Phoné bontos ante eremo. On est en train de commenter un vieux truc. Bontos. Et là, on s'est dit. Et le Marc, c'est le 20e siècle. C'est... On est mal là.
Et moi, j'ai l'impression, en lisant ou en écoutant les gens que j'aime et qui écrivent aujourd'hui, j'ai l'impression qu'ils écrivent, bien sûr, avec notre époque, bien évidemment, mais qu'en fait, ils écrivent ils déploient en écrivant tout le passé et tout l'avenir de ce qu'ils inventent à chaque instant. Par exemple, j'ai une admiration sans borne pour une écrivain qui s'appelle Frédéric Soumagne et qui a une manière de construire ses phrases, une manière de faire, qui à la fois renvoie complètement à une intensité d'aujourd'hui, mais qui en même temps est complètement chevillée à Chrétien de Troyes, une certaine manière médiévale de faire des enluminures dans les phrases, de tourner, retourner, de faire une sorte de détour, de presque une sorte de naïveté aussi, qui remet les choses à neuf. Et il y a cette impression, au fond, et ça c'est une chose qui est très intéressante, quand on se retrouve dans certains festivals de poésie, on trouve en même temps, à la même époque, des poètes qui portent chacun des histoires, qui s'inventent une histoire de la poésie, à tel point qu'on pourrait dire que chaque personne qui travaille profondément sa matière artistique réinvente toute l'histoire et donne et réordonne et remet une ligne par profondément injuste. Je déteste Saint John Perse et j'aime d'un amour fou Francis Ponge. Je suis totalement, je ne cherche pas à être dans une vérité historique. Je défais les siècles et je sens La Fontaine beaucoup plus neuf et présent que Saint John Perse. Et je pense comme ça qu'il y a en même temps, tous les temps qui surgissent, qui vivent, qui se nourrissent les uns des autres, qui s'habillent autrement, bien sûr, c'est un grand carnaval. Et tout le monde il n'y a pas de propre et de pur, tout se transmet, tout est en devenir. Et il y a comme une espèce de feuilletage. Et c'est passionnant pour moi de penser à quel point... au fond, la profonde nouveauté, ce qui fait effraction, ce qui apparaît tout d'un coup et qui frappe de nouveauté, est en même temps ce qui s'écrit au milieu de toutes les voix des morts. C'est quelque chose qui fait re-résonner toute l'histoire précédente, qui la remet en vibration, qui la remet en mouvement. Et c'est pour ça que on écrit véritablement. Moi, j'écris avec des hantises. Et je sens à quel point, à des moments, quelqu'un d'autre, d'autres gens, d'autres, des foules, parfois peut-être un anonyme que je ne saurais pas nommer, parle. Et il n'y a pas de propre, au fond. Il n'y a pas de propre, parce que toute cette histoire du grand XXe siècle, le grand XXe siècle, c'est au fond, c'est toute une... En plus, le printemps des poètes, les petits oiseaux, il fait beau, tout ça, c'est formidable, la poésie qui chante la beauté du monde.
Couleur femme.
Couleur femme, qui avait été un des grands thèmes aussi du printemps des poètes il y a quelques années.
Le paysage.
Le paysage, c'est plus défendable déjà, mais...
Sourire.
Il me semble qu'il y a une sorte d'idée comme ça, un peu naïve, enfin pas naïve, une idée complètement fausse d'une personne qui créerait de toute... qui créerait d'abord une grandeur, qui honnêtement, mais qu'y a-t-il de moins poétique que l'idée de grandeur?
Tu as raison de parler de Frédéric Soumagne, moi je trouve, parce que, bon, évidemment, c'est une de ces personnes un peu compliquées qui est née au XXe siècle et qui s'obstine à vivre. Elle aurait pu simplifier si elle était née plus tard ou morte en 2000, mais elle a aussi, cependant, un intérêt, c'est qu'elle fait des listes.
Oui.
Elle vient faire des listes. Alors, les listes, ce n'est pas une idée tellement nouvelle, tout est dans tout, Rabelais faisait des listes. Mais elle fait des listes, et alors les listes, ça va bien un peu dans ce que tu dis. Tu mets des trucs et des machins, un bric-à-brac, passé, présent, et tu transformes, au lieu d'avoir l'obsession du temps,
déploies sur une ligne, sans hiérarchiser.
Sans hiérarchie, alors du coup, tu crées un espace plus ou moins horizontal, avec quelques bosses par-ci par-là, et c'est même pas tout à fait un espace géographique, parce qu'il faut même se méfier un peu de l'espace des géographes. Moi, c'est d'espace imaginaire dans lesquels les choses sont un peu n'importe comment. J'aime bien, par exemple, la liste des torches-culs hein, chez Rabelais. Je
oui, les propos torches-culatifs.
Voilà, le torches-culatif, c'est pas grand, quoi. C'est vraiment le torches-cul. Hein, voilà, il faut être assez clair là-dessus. Mais il y a une liste comme ça, et c'est vrai que beaucoup d'artistes au XXe siècle,
aime bien ne pas faire des chemins tout droit, on va d'un point à l'autre, avec l'idée d'une grandeur, ça c'est pour Malraux, enfin pour des gens comme ça, quoi, pour le général de Gaulle, enfin, on voit bien à peu près, mais aime bien explorer des espaces qu'il crée en même temps, et par exemple, la liste, effectivement, Frédéric Schumann, de ce point de vue, était une artiste qui aurait dû mourir, ça certainement, mais qui est tout de même une artiste, en effet, qu'on peut considérer comme de l'entre-deux. Elle aurait eu beaucoup de chance si effectivement le 19e siècle, enfin le 20e siècle avait commencé en 1950, ça aurait été mieux pour elle, mais elle fait des listes. Et en effet, bon, y a un truc assez frappant, la liste, à mon avis, ça vient du fait qu'au 20e siècle, enfin un des aspects, c'est qu'on peut tout conserver. Il y a un grand poète, et par exemple la voix, il y a un truc auquel on ne pense pas assez, les poètes du 19e siècle, du 18e siècle, enfin d'avant d'époque lointaine, Ronsard, par exemple, Ronsard, sa voix se perdait.
Oui.
Et il perdait aussi la voix de Marie, la voix d'Hélène, la voix de Cassandre. Voilà. Aimer dès aujourd'hui la rose de la vie. Mais s'il avait eu l'enregistrement de Cassandre, de Marie, de François Ier, ou de lui-même, ça aurait changé les choses. Il aurait fait des mix, des trucs et des machins. Or, c'est une grande idée étrange qui est dans la tête d'un poète du 19e siècle, d'ailleurs de la région, du sud-ouest, Charles Cros, de Fabrezan, d'essayer de conserver les voix. Et donc, d'un seul coup, on a cette expérience, elle est sur un site qui s'appelle UbuWeb, on peut entendre en même temps, dans une sorte de liste, Sébastien Espinasse, Gerasim Bouka, qui est bien mort, Guillaume Apollinaire, Paul Éluard, et des tas de poètes américains, russes, chinois ou n'importe quoi. Et on a une liste comme ça, et on revient à Google. C'est comme dans le site, moi je me suis plongé assez longuement dans Grand XX. C'est très bien les sites porno. C'est des choses parmi les mieux classées du monde, avec des listes extraordinaires, des listes de perversion, des listes d'images, des possibilités. C'est absolument horizontal. Ne vous dites pas, bon, par exemple, si on aime les blondes, les rues brunes, ou les rousses, ou les animaux, ou les chiens, ou les reptiles, etc. C'est mieux, on cligne dans tous les sens, c'est parfaitement horizontal. J'aime les sodomies de léopard par des singes, je clique, clonc. Voilà. J'aime les astronomes en train de se masturber sur une planète, clonc, il y a la spécialité. Et donc cette horizontalité extraordinaire qui est aussi présente dans l'œuvre de Frédéric Schumann, caractérise assez bien effectivement ce truc.
Moi je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire parlant de Charles Cros. Il invente une chose qui est un peu qui va modifier complètement pour le coup c'est une invention technologique qui fait avancer des possibilités. Il invente un objet qui s'appelle le paléophone, je crois, et qui est l'ancêtre du phonogramme, c'est-à-dire cette possibilité d'enregistrer la voix. Alors la possibilité d'enregistrer la voix, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce que la possibilité d'enregistrer la voix veut dire la possibilité, d'abord pour la personne qui s'enregistre, la possibilité d'entendre sa voix hors de lui-même, de la sortir de son corps, de l'entendre hors de lui-même comme quelque chose de séparé et d'un peu étranger. C'est une manière un peu de redevenir étranger à la langue et donc d'ouvrir des possibilités de la traduire, de la transformer. Et aussi, la voix devient un objet, c'est-à-dire elle est enfermée sur un support, que ce soit une bande magnétique ou comme aujourd'hui des suites de chiffres numériques. Elle est encodée sur un support et elle devient l'objet de manipulation possible. C'est-à-dire que très vite, à partir du moment où la voix peut être objet, on peut la ralentir, l'accélérer, on peut la multiplier, l'arrêter, on peut la monter, la superposer, etc. Et donc ça donne tout d'un coup un autre terrain qui est la prise en compte du souffle comme une signature, comme une véritable écriture. La voix, elle parle aussi, comment vous dire ça ? Elle parle. Quand je parle, c'est pas la même chose quand j'écris. Quand j'écris, je n'ai au fond que la voix de l'écrit que je peux arriver à faire en étant un écrivain qui travaille longtemps. Je peux faire entendre une voix profondément dans l'écriture. Quand je lis Beckett, j'entends une voix. J'entends quelqu'un qui parle à travers les mots. Mais c'est un travail qui est extrêmement difficile. Et avec le magnétophone, je me donne, et Beckett était fasciné par le magnétophone, véritablement, je me donne la possibilité d'avoir un rapport qui n'est pas naturel, qui va se modifier, qui va se manipuler, et qui va prendre en compte en même temps cette chose qui parle en dessous du discours, qui est au fond le corps, la présence physique. Même si cette voix est séparée du corps, elle garde quelque chose, une empreinte du souffle, une dynamique de ce qui s'est passé organiquement. Et il y a là quelque chose qui parle un peu en dessous des mots. Et moi, c'est ça qui me fascine toujours. Je dirais, si j'ai envie de dire, si j'ai envie de dire que je me fiche complètement du thème du grand XXe siècle, mais que je viens vous parler de ce qui m'intéresse comme expérience fondamentale qui s'est passée au XXe siècle, c'est cette expérience-là d'une possibilité d'écrire à même cette pulsation vitale qui passe par la voix et qui va modifier complètement le rapport à l'écriture. Et c'est évident que cette modification-là, et c'est ça qui est beau, elle va inspirer aussi des gens qui ne vont pas utiliser, évidemment, le magnétophone ou l'écriture, la voix. C'est-à-dire, et on sait qu'il y a une autre lignée dans la littérature vraiment écrite, qui est de petit à petit faire rentrer l'oralité, c'est-à-dire les manières pour les gens de parler, de communiquer, et petit à petit, hein, il y aurait une très belle ligne à faire qui irait jusqu'à Céline, et puis même au-delà, Guyota, etc., toute cette recherche, progressivement, de faire entrer quelque chose d'un corps qui reste irréductible aux mots, hein, qui ne peut jamais être dit par les mots.
Si je peux me permettre de revenir sur les magnétophones, et on a vu hier, oui, on tient ici des magnétophones, des machines, tu as tout à fait raison, on aurait mieux, voilà. Dès qu'il y a des magnétophones et des machines, on voit que le poète, qui dans les siècles précédents avait tendance à se dresser comme ça, à regarder vers le ciel, première chose, il se penche sur les machines, fait effectivement des bricolages avec les mains. Mmh. Alors parfois ça peut être des papiers collés, hein, on n'a pas besoin parfois de machines très compliquées, on branche, on truc. Et puis, si dans des siècles très lointains, des époques mystérieuses, le poète écoutait les voix qui venaient d'en haut, les voix, par exemple, l'action d'un poète autrefois consistait à se lever le matin et essayer de monter par l'échelle de Jacob ou une autre, vers la voix de Dieu, vous pouvez lui parler. Et là, après,
tu vas rencontrer le projecteur.
Il entendait le projecteur, qui était Dieu lui-même, qui l'irradiait totalement. Et donc, effectivement, la poésie était verticale. Plus j'étais grand, plus je touchais le haut, plus j'étais un poète, j'étais comme irradié par cela. Or, avec les magnétophones, avec les papiers collés, on rentre dans le bricolage. Ce n'est plus le poète inspiré. Maintenant, et je vous assure que Sébastien Espinasse n'est pas un poète inspiré, mais mais un poète bricoleur. Je l'ai vu travailler, des trucs, prendre des bouts de machin, des bouts de papier, des machines, enfin tout ça. J'en connais d'autres qui sont dans le même genre. Et ça, c'est vraiment Charles Cros, qui est assurément le plus méconnu des poètes du 19e siècle, dont le musée à Fabrezan vaut la peine d'être visité parce qu'il n'y a strictement rien dedans. Le type qui fait visiter le musée ne connaît strictement rien pour rien qu'il y a dedans. C'est un type total. Il s'occupe beaucoup plus du club de pétanque, très intéressant en effet, donc d'une horizontalité, effectivement. Et donc, en effet, prenons une grande révolution au 20e siècle dans la poésie, c'est l'apparition du bricolage, mais de manière déclarée. Avec les voix, avec le corps, avec le hasard, et donc du coup on y gagne quelque chose, et peut-être moi aussi j'ai une gêne avec Saint John Perse, parce qu'un jour Saint John Perse, enfin en tout cas après sa mort, une dame que je connais un petit peu qui s'appelle Colette Camelin avait voulu publier l'édition de la Pléiade de Saint John Perse avec des notes de bas de page, et elle avait remarqué que Saint John Perse avait bricolé, il travaillait ses textes avec des bouquins de géologie, d'histoire naturelle et compagnie, et sa famille, sur les ordres de Saint John Perse, qui était mort à ce moment-là, mais enfin le message était resté, sa famille avait demandé qu'on ne mette aucune note de bas de page dans l'édition de la Pléiade parlant de cela, parce qu'en effet, le poète ne bricole pas. Le poète n'utilise pas des bouquins de géologie, et là, peut-être, il se joue quelque chose dans le bricolage. Ici, on a des bricoleurs. Le hangar, c'est un bâtiment un peu bricolé. Ouais, c'est pas terrible.
Mais il y a quelque chose comme l'invention d'une, plutôt que d'une grandeur, d'une surface infinie. Et je pense à un poème, moi, que j'aime par-dessus tout, qui est un poème d'un des grands fondateurs et pionniers de la poésie dite sonore, qui est Bernard Haitink, qui a fait un poème qui s'appelle Vaduz. Et Vaduz, vous le savez peut-être, c'est la capitale sans doute, qui est le plus petit pays du monde, Liechtenstein. Il a eu une commande par cette ville-là, de Vaduz, d'écrire un poème qui parlerait de cette ville. Et puis bon, visiblement, on attendait sans doute du poète qu'il chante la grandeur de Vaduz.
Oh, grand Vaduz.
Et voilà. Et Bernard Haitink ne savait pas du tout comment faire. Il n'était pas du tout intéressé trop par ça. Et il a eu une idée qui était très intéressante, qui était au fond de chercher à parler de cette ville en disant tout ce qu'il y a autour d'elle. Et donc il fait un poème comme ça où il tisse tout autour de Vaduz, et il cherche tous les peuples du monde. Il y a des Suisses. Et il commence à bricoler. Il y a des Suisses, il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Bretons. Tout autour de Vaduz, il y a des Niçois. Et petit à petit, il fait rentrer tous les peuples. Et il se documente, il va chercher, il bricole, il va chercher dans des livres tous les peuples de la Terre. Et petit à petit, d'un seul point, il irradie comme ça jusqu'au bout. Et il crée un dispositif qui est extrêmement intéressant parce que ce dispositif-là, pour moi, c'est le moment où la technologie devient poétique. C'est qu'il enregistre en fait deux voix qui sont mises en écho, et cet écho crée un espace sonore. Et cet espace sonore va s'élargissant au fur et à mesure du poème, avec des bruits de foule qui petit à petit peuplent la bande, qui peuplent la voix, c'est-à-dire qu'il fait rentrer aussi, il fait rentrer en fait des bruits de foule de matchs de foot, de choses comme ça, il fait rentrer quelque chose du réel, en irruption dans son texte, qui cite un peu tous les peuples du monde. Et c'est un magnifique poème qui s'oppose complètement à l'idée d'une grandeur verticale, et qui propose au contraire une poésie qui serait plutôt une poésie de la géographie, de la zone, du plan d'immanence, si on peut dire.
Oui, il aurait pu faire une sorte de légende des siècles de Vaduz.
Oui.
Raconter l'histoire des héros qui ont fondé Vaduz. Donc il y a sûrement des héros, des grands hommes qui ont fondé Vaduz. Il y a sûrement un général de Gaulle de Vaduz, etc., etc., un personnage historique. Et donc il aurait montré la succession des héros dans le temps, et il y aurait eu un grand 16e siècle, un grand, etc. Et en fait, au lieu de s'inscrire dans le temps, toujours un peu avec le fascisme de la main, il s'est mis dans l'espace horizontal, comme on ferait tout autour du hangar. Il y a la gare Batavio, il y a le cimetière, tout autour du hangar, il y a la place Pinel, tout autour du hangar, il y a Jean-Luc Boudin, tout autour du hangar, il y a les voisins de Palier, tout autour, ainsi de suite. On irait à Narbonne, et on irait en Chine. Puis on voit bien que ce n'est pas un espace plan, parce qu'au bout d'un moment, c'est la terre entière. Tout autour du hangar, il y a la Nouvelle-Calédonie, en dessous. Hein, voilà, donc c'est un peu compliqué, c'est un peu tordu, c'est mal foutu. Mais enfin, on est sur une patatoïde qui est la Terre. Et donc, effectivement, ouais, là, il y a un truc. Il nous suggère qu'il faut aller un peu dans tous les sens, et que peut-être les poèmes sont un peu partout, quoi. Voilà. On peut faire de la poésie avec autre chose que du poétique.
Bien sûr. La poésie, elle est ailleurs que dans l'idée de la poésie.
Oui, elle est vraiment ailleurs. Souvent la poésie nous semble combattre le poétique.
En fait, ce qui est étrange, c'est que la poésie est ailleurs que dans la poésie, et l'ailleurs, c'est l'ici. C'est très précisément le monde concret, le monde des choses même, le monde où nous sommes, le monde où nous respirons, ce monde qui est de plein d'époques en même temps, qui est de plein de strates.
Par exemple, le pain pour Francis Ponge, il est là. Voilà, je prends le parti pris du pain, et puis le pain, c'est un bout de pain qui est là, mais c'est le coca, c'est la terre, c'est des galaxies, c'est une grosse merde qui se recuit, c'est l'histoire du pain des chrétiens, c'est plein de choses en même temps. C'est un bout de pain, quoi, mais on pourrait faire un poème sur cette bouteille, Carrefour des Alpes. On le fait pas, on le fera.
C'est un poème difficile à faire.
C'est un poème difficile à faire, mais tous les poèmes sont difficiles à faire. Ouais. Tous les poèmes sont difficiles à faire, en particulier celui-là. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'on nous dit, qu'il y a beaucoup de poèmes dans des livres de poèmes.
Absolument.
Et finalement, est-ce qu'on le croit? Pour nous, il y a des poèmes à Place Pinel. Pour moi, il y a des poèmes à Mamona, qui est une boutique solderie de Carcassonne.
Peut-être ce que tu veux dire, au fond, c'est que ce qui est beau dans le poème, c'est pas le poème, c'est pas le fait qu'il soit un poème, c'est ce qu'il permet, c'est en quoi il est la trace d'une expérience, ou en quoi il nous permet de tenter une autre expérience. Ce qui est beau, c'est au fond que ça n'est pas qu'un livre. C'est peut-être que, au fond, le poème, c'est plutôt... En fait, le poème, ça n'existe pas trop. C'est quelque chose qui est comme un chemin qui nous met dans une certaine disposition pour voir les choses, pour s'ouvrir à...
Pour moi, quand on me demande quel est... Et tu vas voir, je vais arriver très vite à ton idée par un autre chemin. Oui. Quand on me demande quelles sont mes sources pour moi de la poésie, je réponds tout de suite au journal de Mickey. Et dans le journal de Mickey, il y avait deux types d'aventures. Il y avait d'une part les aventures de Mickey qui cherche toujours la vérité. Il a un ennemi patibulaire. Et je détestais les aventures de Mickey, la recherche du point fixe qui est la vérité. Et à côté, il y avait les aventures de Donald avec Picsou. Pas des aventures policières, Donald se fiche de la vérité avec Picsou. Il cherche à augmenter sa richesse, il cherche à augmenter le trésor. Il a un copain qui agit autour de tout, un bricoleur. Il m'a semblé toujours que la poésie n'était pas du côté de la recherche du point fixe. La poésie déteste Mickey. Et la poésie est du côté de Donald avec ses petits juniors qui font n'importe quoi, qui explorent le monde. Qui... Voilà. Et du coup, effectivement, la grande source poétique pour moi, c'est la réflexion complexe que je trouvais dans le journal de Mickey, à la rigueur dans Pif le chien, avec les gadgets. C'est-à-dire la multiplication du monde par les pifs et les poissonneurs. Beaucoup plus que lorsque j'ai lu, assez jeune, des poèmes de Ronsard, de Dubélé, ou d'autres. Et je crains d'ailleurs que des gens aient plus d'inspiration actuellement en lisant toujours le journal de Mickey qu'en lisant les poèmes même de Frédéric Souvagne ou de Sébastien Lestinas, surtout de ceux de Yves Le Pessimon, qui est des découragements profondément. Oui. Lire Mickey, aller dans l'horizontalité, se dire que les poèmes ne sont peut-être pas nécessairement dans les recueils de poésie.
Oui.
Oui. Oui.
Peut-être que le poème, au fond, qu'est-ce que c'est qu'un poème? Est-ce que c'est une phrase qui va et qui nous permet d'aller avec elle, de continuer? Moi, j'aime bien cette idée-là, je sens ça pour moi. De temps en temps, c'est une phrase qui me porte et qui va me porter. Elle est dans un livre ou parfois je l'entends parce que j'écoute beaucoup de poètes qui travaillent quand même sur des disques ou que j'entends dans leur lecture, et c'est une phrase que je vais garder en moi, qui va tourner, une phrase ou quelques phrases, et sur lesquelles je vais amalgamer des tas de choses, comme une sorte de spirale, comme ça, qui attrape petit à petit, et je vais mettre plein de sensations, de choses. Des fois, c'est un outil aussi, le poème, c'est une manière de fendre quelque chose qui était enfermé, de découvrir quelque chose qui... Et je me demande même si des fois je n'utilise pas des poèmes comme des outils dans un sens que leur auteur n'avait pas pu imaginer. J'ai l'impression que le poème, il est un peu posé comme une espèce de chose qui demande un énorme souci pour celui qui le fait, mais qui en même temps ne lui appartient absolument pas et se retrouve comme un objet inconnu que quelqu'un va saisir pour le relancer ailleurs, complètement ailleurs.
Bon, évidemment, Sébastien Lespinasse ne pense à rien d'autre qu'aux poubelles. En effet, les poubelles sont ces objets qui sont laissés, abandonnés, oui. Et que les poètes, et par exemple Sébastien et moi-même, cheminant vers la place Pinel pour ailleurs, explorons, imaginons, goûtons et relançons ailleurs, dans des expositions, dans ce qu'on appelle parfois des poèmes, dans des sortes de conférences, dans des films, et il y a quelque chose à voir, et alors c'est pas très grand, parce qu'effectivement, quand je vais dans des collèges parfois expliquer la poésie des poubelles, bon, les gamins sont heureux, hein, mais les professeurs sont inquiet. Mais me semble-t-il, effectivement, les poèmes sont des poubelles tout autour du hangar.
Mais il y a quelque chose comme ça, c'est-à-dire il y a quelque chose de sauvé, quelque chose qui peut être de l'ordre du déchet, qui n'est pas quelque chose d'utile, qui permet de réussir, d'avoir une bonne situation dans la vie, d'avoir, de devenir un grand homme ou d'être dans la grandeur, de sauver quelque chose d'éminemment fragile, peut-être un peu sale, peut-être une chose qui, avec laquelle on va se blesser, et de le sauver de, avant qu'une affreuse bouche avale comme ça et broie tout ça pour en refaire une espèce de matière qui va refaire. Peut-être on est en train de commencer le poème de ça.
Le camion poubelle. Le camion poubelle, c'est vraiment le grand ennemi. Le grand ennemi, le destructeur. Moi, j'aurais tendance à me dire effectivement que les poèmes ne sont pas dans la Pléiade.
Les poèmes ne sont pas dans les fleurs du mal non plus.
Les poèmes ne sont pas dans les contemplations.
Les poèmes ne sont pas dans les regrets.
Les poèmes ne sont pas dans les amours.
Les poèmes ne sont pas dans le grand jeu.
Les poèmes ne sont pas dans le parti pris des choses.
Ils ne sont pas dans dans Capital de la douleur.
Le poème manque dans un coup de dé jamais d'aboïra de hasard.
Il n'y a jamais eu aucun poème dans les orientales.
Manque total de poèmes dans le cotonnière.
Les poèmes sont dispensés de divine comédie.
Les poèmes se sont évadés des fêtes galantes.
Les poètes ne sont pas des cantos.
Les poèmes ont fui parole.
Il n'y a jamais eu aucun poème dans les illuminations.
Pas un seul poème dans l'éloge de la paresse.
Aucun poème dans les tragiques.
Rien comme poème, pas un poème dans les poèmes barbares.
Absence totale de poèmes dans l'espace du dedans.
Les poèmes sont sortis des chimères.
Les poèmes sont évadés des élégies de Duino.
Les poèmes se sont taillés hors des vers du capitaine.
Les poèmes ne sont jamais dans un choix de poèmes.
Les poèmes sont ailleurs que dans les champs magnétiques.
Les poèmes ne sont pas dans les amours jaunes.
Les poèmes ont disparu de la nuit obscure.
Les poèmes ne sont pas dans les ridiculum vitae.
Les poèmes ne se terrent pas sous les feuilles d'herbe.
Les poèmes sont évadés de poissons solubles.
Les poèmes manquent au champ de Bal-de-Rohr.
La variété ne contient aucun poème.
Il n'y a pas de poème dans quelque chose.
L'infini turbulent ne contient aucun poème. Il n'y a pas de poème.
Des baoulés, des lobbies, des mendes, des soufis, des batikis, des tout couleurs, des lakouts, des tadjiks, des uzbeks, des afghans, des nouristanis, des pendjabis, des sindhis, des brahouis, des balouts, des somalis, des denakis, des nandis, des sukhs, des nuers, des gallas, des pygmées, des barikis, des bakondos, des baloubas, des Mongvais, des Bandas, des Manchus, des Mongols, des Kazakhs, des Aryans, des Indes, des Kikuyus, des Massais, des Bakumba, des Rotses, des Boshimans, des Bororos, des Cuyabas, des Tupis, des Sud-Américains, des Mararos, des Apalais, des Wayaouais, des Waros, des Galibis, des Gays, des Tupi-Guarani, des Martiniquais, des Métis, des Canadiens français, des Esquimaux polaires, des Nang, des Lolo, des Adivasis, des Dravidiens, des Yaos, des Bemba, des Venda, des Tenga, des Herero, des Cherens, des Custeno, des Baraza, des Mundia, des Puri, des Apika, des Apiaka, des Carrara, des Patomanes, des Giambi, des Rokuyen, des Taruma, des Wapisian, des Atore, des Akawa, des Caribes, des Baniva, des Badiaoli, des Tunyokan, des Yamassi, des Noirs américains, des Américains, des Yamassi, des Porto Ricains, des Canadiens, des Onondaga, des Winnebag, des Yakima, des Apala, des Katoba, des
il y a tout
le monde, des Ottawa, des Esquimaux de Bavard, des Mossos, des Palos, des Tibétains, des Bengalis, des Wa, des Todas, des Telou, des Vedas, des Tamoul, des Betsi Miseraka, des Sakala, la Kuspara, des Gaves, la Suru, des Shona, des Pédé, des Otonto, des Tamaria, des Tapuya, des Potokudu, des Chavannes, des Pakeri, des Pakaguara, des Nanasika, des Guato, des Chiquitan, des Parentintins, des Trumayans, des Manaos, des Yuruna, des Enimagans, des Ipurinans, des Pawomba, des Makiritares, des Mepures, des Pinadu, des Bares, des Guahai, des Yaruran, des Otokoko, des Guarimo, des Ramas, des Coconuts, des Zaparo, des Chibcha, des Tucano, des Choco, des Sevipol, des Matakata, des Bobsco, des Natchez, des Chivcoc, des Maricopa, des Dibutua, des Siquam, des Chocto, des Senecas, des Tuscarora, des Otos, des Ojibwa, des Stockbridge, des Esquimaux de Southampton, des Esquimaux de Maori, des Igueras, des Madurais, des Sundanen, des Minangkaban, des Andaman, des Javanais, des Garros, des Amchéens, des Sakai, des Malais, des Lissous, des Karen, des Jins, des Chan, des Yangtun, des Esquimaux Chouas, des Wichit, des Quapos, des Mandans, des Fops, des Kikapop, des Gros Ventres, des Mebomini, des Illinois, des Tetons, des Iowa, des Navajo, des Kansas, des Sauts, des Chicasso, des Pueblos, des Chihuahuas, des Homas, des Utes, des Romanos, des Chichamacha, des Nanas, des Totonacs, des Pima, des Nahuatl, des Pichols, des Lawaga, des Semibol, des Mesquitos Matagalpa, des Jibaro, des Cunas, des Man, des Muisuitos, des Tsetsages, des Quatus Cavara, des Quatus de Colorado, des Oasis Ocarimbo, des Esquimaux Netsitke, des Arawak, des Paisan, des Lutani, des Yamanas, des Carirona, des Caïban, des Panches, des Bataillons, des Kidus, des Canaries, des Pébans, des Apolistans, des Kazibo, des Boro, des Jivaro, des Tienoro, des Chiazetto, des Lecorenza, des Etonamachia, des Canaries, des Caribou, des Gorani, des Keyubara, des Lanti, des Tchapakwana, des Tepukwina, des Mara, des Yukurara, des Mataguana, des Luléan, des Tiriguano, des Kalchakwi, des Uros, des Abipan, des Kayaki, des Chabuara, des Ketchurian, des Alpuch, des Ponches, des Akilus, des Anas, des Hors, des Tasmaniens, des Avrabanes, des Moramunga, des Madurens, des Nakassar, des Sakai, des Moy, des Flans, des Dayak, des Vietnamiens, des Siamois, des Khmer, des Lolo, des Opel, des Kachiris, des Esquimaux Chibéois, des Erjayens, des Assinibouins, des Gonestrovas, des Arikara, des Sioux, des Mono, des Dolawa, des Lipan, des Kwas, des Roumanes, des Hopi, des Oka, des Yoruba, des Tepena, des Paya, des Chipcha, des Guinée, des Chal, des Binahas, des Pokom, des Meos, des Toraja, des Laouya, des Alfa, des Ouzbak, des Zaïwak, des Miao, des Tatars, des Chachak, des Monaco, des Blackfeet, des Panamines, des Panapox, des Avaberi, des Jikak, des Chap, des Wabis, des Wastekas, des Polynésiens, des Negritos, des Formosans, des Tojik, des Kawa, des Tchouks, des Han, des Salish, des Griyaka, des Yukagir, des Penakos, des Suquamish, des Moïkolo, des Amnakim, des Fatakets, des Kamat, des Djejikaou, des Cœurs d'Alain, des Iropayot, des Karok, des Bran, des Walla Walla, des Washo, des Mélanésiens, des Dieg, des Ouigou, des Papagos, des Chinois, des Paviotsos, des Manchus, des Kalapouya, des Wits, des Rodrigos, des Paivos, des Yavapans, des Coréens du Sud, des Tsongchadans, des Afatriens, des réfugiés exilés, des internés, des perplacés, des paumés, des laissés pour compte, des émigrés, des désintégrés, et bien d'autres, 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 et bien d'autres.
autour, 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 il y a des
juin, décembre 1974.